Nous arrivons à la fin d'une journée de sabbat bien, bien chargée, transformée. Vous avez l'impression que ces réunions, que cette journée vous a transformé? Quels sont ceux d'entre vous qui ont reçu aujourd'hui quelque chose qui les a transformés? Hein? La journée a été bien pleine et je ne voudrais pas la prolonger en la rendant trop lourde pour vous. Cependant, j'aimerais finir la journée avec une réflexion de quelques minutes sur ce thème « Soyez transformés ». Vous vous souvenez, hier soir, nous avons vu 7 éléments qui nous permettent de nous mettre à la disposition du Seigneur pour qu'il produise en nous ce fameux réveil dont on avait parlé. Et quand on parle de transformer, on parle en fait, selon le texte, de métamorphoser. Le mot « transformer » en français est l'exacte traduction du mot grec, mais il a à nos oreilles une connotation un peu plus légère. Ce n'est pas une transformation que le Seigneur veut, c'est une métamorphose. Et par conséquent, cette transformation, cette métamorphose, nous amène à une réforme, réveil et réforme dont on avait parlé hier, on avait commencé une première étape. J'aimerais aujourd'hui rentrer avec vous dans quelques réflexions qui m'ont frappé ces derniers temps d'une façon particulière que j'aimerais partager rapidement avec vous ce soir. On prie ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour le jour du sabbat, et alors que ces heures du sabbat sont en train de s'achever, accorde-nous, Seigneur, de rester dans l'esprit du repos et de la paix que tu donnes en Jésus. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais comment ça se fait que je suis toujours en train de demander pardon pour les mêmes fautes? Que je suis toujours en train de retomber dans les mêmes travers? Que je suis toujours en train de tomber dans les mêmes pièges? Et que je dois constamment retourner au Seigneur pour lui demander pardon pour les mêmes choses? Ça vous est déjà arrivé, ça? Et de vous dire, mais enfin, jusque quand le Seigneur va garder sa patience envers moi? Et comment ça se fait? Parce que je suis un chrétien engagé, parce que je lis la parole de Dieu, parce que je suis engagé envers le Seigneur et envers l'Église. Et voilà. Est-ce que je suis tout seul là-dedans? Vous me rassurez. Quand je pense à ça, je pense à une situation que j'ai vécue dans mon jardin ces dernières années. Au printemps passé, il y avait des pissenlits partout dans mon jardin. Et je me suis dit, bon, on va les arracher. Et j'en ai arraché des tonnes, des sacs entiers. Tirer ces affaires-là du sol avec des racines comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si à Montréal, vous avez des pissenlits. Il y en a encore à Magog. Et j'en ai enlevé des pissenlits. Je me suis dit, l'année prochaine, ce sera déjà mieux. Printemps dernier, il y en avait 10 fois plus qu'avant. Partout. Et ça me fait penser à ma vie spirituelle. Merci, c'est gentil. Ça me fait penser à ma vie spirituelle où je me dis, j'essaie de déraciner ici une mauvaise habitude. J'essaie de lutter ici contre un travers. J'ai l'impression d'avoir jugulé cette faiblesse. Et pendant que je m'occupe d'en maîtriser une autre, coucou, me voilà, elle ressort. Vous avez remarqué ça? C'est une situation frustrante pour le chrétien de voir qu'il est en lutte constante et que finalement les victoires ne sont pas aussi nombreuses. Les victoires, les vraies, les victoires définitives ne sont pas si nombreuses qu'on voudrait. Dans le livre « Vers Jésus » à la page 73, je trouve quelque chose qui résonne en moi. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible, moralement esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce paragraphe écrit par Ellen White? Et dans un sens, je me console en me disant que nous sommes en bonne compagnie, parce que quand je lis les Écritures et que je vois la vie de ces grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu, je me rends compte qu'eux aussi ont été confrontés à des luttes incroyables. Alors, je me trouve en bonne compagnie. Il n'y a pas longtemps, je recevais un email d'une personne qui me posait une question et qui me disait en substance, mais enfin, dans l'Ancien Testament, tous ces gens, tels que Abraham, Jacob, Samson, Elkanah, Salomon, tous ces gens-là ont commis adultère à répétition. Et Dieu, il n'a rien fait avec ça. En effet, quand on regarde les Écritures et les histoires que l'on a de la vie de ces hommes et de ces femmes, on a l'impression que l'intervention de Dieu dans leur vie n'est pas toujours conséquente. Regardez par exemple Jacob. Vous ne trouvez pas un seul passage dans les Écritures où Dieu reproche à Jacob ses tromperies, ses vols, ses mensonges, ses supercheries. Rien de tout ça. Rien. Pourtant, Jacob, c'était son nom, trompeur. Rien, pas un reproche là-dessus. Regardez David. Dieu va intervenir quand il va avoir ce problème avec Bathsheba. Mais ce n'est pas seulement avec Bathsheba, il a fait mourir son mari. C'était le meurtre, c'était la conspiration, tout y était. Dieu est intervenu. Mais pour toutes les autres femmes qu'il avait avant, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu?
Rien.
Il n'a pas reproché d'en avoir toute une série. On ne parle pas de Salomon. Les disciples, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Pierre veut faire le malin, il voit Jésus qui marche sur l'eau et lui dit « Seigneur, fais que je marche aussi. » « Viens. » Pierre sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau, il se retourne pour voir les disciples qui sont derrière, les froussards restés dans la barque, et plouf, il tombe. Le texte nous dit « Aussitôt, Jésus l'attrapa. » Et il lui dit « Homme de peu de foi. » En fait, c'est tout. Le même Pierre, quelque temps plus tard, va dire « Je vous jure, je ne le connais pas ce gars-là. » Que dit Jésus, quelques jours après? « Pierre, m'aimes-tu ? » Mais enfin, c'est grave. C'est grave. Et on a l'impression que Jésus n'agit pas non plus toujours d'une façon, enfin, comme on pense à qu'il devrait faire. Alors, de temps en temps, il va intervenir, c'est sûr. On a l'impression qu'il intervient quand il y a danger pour les uns et les autres. Vous vous souvenez, Jacques et Jean sont envoyés par Jésus au devant de lui pour préparer le chemin. Ils doivent aller en Samarie. Et puis, il y a un village qui dit « Jésus, non, on ne veut pas sortir d'ici. » Jacques et Jean disent « Seigneur, t'inquiète pas, on va prier et Dieu va envoyer le feu du ciel pour détruire ce village direct. » Et Jésus intervient « Malheureux, faites pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Alors, on est étonné de voir Jésus réagir à certaines choses et puis pas à d'autres qui nous paraissent grosses, qui nous paraissent graves. Judas, pendant 3 ans et demi, va piocher dans la caisse et va voler constamment l'argent de cette petite communauté de Jésus. Pendant 3 ans et demi, il va piocher dans la caisse. Il n'y a pas un seul passage dans les Écritures, pas un seul texte des Évangiles qui nous dise que Jésus a fait le moindre reproche à Judas. La seule chose que Jésus fait, c'est lui laver les pieds en premier lors de la dernière fête de Pâques. Enfin, c'est tout. Et pourtant, Jacques et Jean étaient des gens comme vous et moi dans Conquérant Pacifique à la page 481. Il est dit, l'apôtre ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère dont il fit preuve à la fin de sa carrière. Il avait de graves défauts. Non seulement il était orgueilleux et ambitieux, mais impétueux et vindicatif. On le surnommait ainsi que son frère, fils du tonnerre. Il était affligé d'un tempérament irritable et porté à la vengeance et à la critique. Ça, c'est Jean. Le Jean qui va écrire l'Évangile, qui va écrire les Épîtres, qui va écrire l'Apocalypse. Un sale type avec un sale caractère. Ça, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que je me dis, bon, si Dieu a agi avec tant de patience, de bonté envers ces grands pécheurs, sûrement qu'il agira aussi avec patience et bonté envers moi. Le problème, c'est que ça ne résout pas mon problème. Ça ne résout pas mon problème qui fait que je retombe toujours dans les mêmes choses et que je suis constamment en train de demander pardon pour les mêmes affaires. C'est une piètre consolation en réalité. Cependant, nous savons ce que Dieu nous demande. Prenez votre Bible, voulez-vous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 1, il est écrit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand on parle de la transformation dont il est question dans le thème de nos réunions, c'est en fait de ça que nous parlons, de la sanctification. Et vous avez remarqué, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, c'est que vous alliez de progrès en progrès. Je n'ai pas toujours l'impression d'aller de progrès en progrès. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois on a l'impression de tourner en rond. De progrès en progrès. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est donc quelque chose que Dieu veut. C'est le plan de Dieu que nous soyons transformés, métamorphosés, sanctifiés. Alors, on parle de sanctification. Dans notre esprit, c'est un mot théologique. Si vous allez parler de ça au voisin d'en face, il va vous regarder avec des grands yeux. Parce que c'est un texte, c'est un mot qu'on trouve dans nos textes bibliques, mais ce n'est pas un mot du langage courant déjà. Et dans notre esprit, nous avons développé une idée de ce que nous voyons dans la sanctification comme étant l'éradication, l'élimination des différents problèmes, des différents péchés, des mauvaises habitudes que nous avons dans notre vie chrétienne. Sanctification, du mot saint, mise à part pour un usage sacré. Définition de saint. À force d'être mis à part, on va être transformé. Seulement, cette transformation, nous le savons, on en a parlé, elle s'accomplit par l'œuvre du Saint-Esprit. Seulement, il y a quand même un problème, c'est que si nous considérons la sanctification, la transformation, la métamorphose, comme étant l'éradication des mauvaises habitudes, des mauvaises actions, des mauvais comportements, des mauvaises pensées de notre existence, Alors ça veut dire une chose fort simple, c'est que nous ne sommes pas encore sortis du schéma du salut par les œuvres. Parce que ce sont des œuvres que nous essayons d'éliminer, ça. Sans avoir en réalité atteint le problème de fond, qui est la source de toutes ces œuvres sur lesquelles nous sommes en train de nous battre. Si pour nous la sanctification, c'est l'élimination, l'éradication des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des mauvais comportements, etc. dans notre vie, c'est que nous sommes encore coincés avec le salut par les œuvres. Parce qu'en réalité, la sanctification n'est pas l'éradication de toutes ces vilaines choses. La sanctification, c'est la transformation de notre caractère. Et là, en fait, on est en train de toucher le problème de fond avec ça. Parce que lorsque notre caractère est transformé, métamorphosé, sanctifié, les autres choses vont tomber finalement d'elles-mêmes. Autrement dit, sanctification égale changement, transformation de notre caractère. Alors j'en reviens au pissenlit de mon jardin. Alors j'ai été sur internet pour savoir ce qu'il faut faire avec ces centaines de milliers de pissenlits qui fleurissent et qui me font un champ jaune devant ma maison. Je fais quoi avec ça? Plus j'en enlève, plus il y en a. Alors en regardant sur internet, parce que là il paraît qu'on trouve tout, j'ai trouvé que ces jolies petites fleurs poussent dans les terrains particulièrement acides et que si on veut éliminer les pissenlits, il faut que le terrain devienne plutôt alcalin. Ah ben voilà. Alors il va falloir traiter le terrain pour qu'il devienne plus alcalin. Et à ce moment-là, mes pissenlits, j'aurais plus besoin de les déterrer par centaines chaque printemps. Sanctification, transformation de mon caractère. Et c'est vrai que nous avons demandé à Dieu d'enlever de notre vie telle mauvaise attitude, telle mauvaise pensée, telle mauvaise action. Et nous avons lutté avec prière là-dessus. Mais nous n'avons pas toujours demandé à Dieu de nous montrer quel est le défaut de caractère qui était à l'origine de ça. Et nous lui avons peut-être encore moins demandé de changer ce défaut de caractère qui produit tellement de difficultés contre lesquelles je me bats constamment. Nous lui avons demandé de nous délivrer d'une de ses mauvaises œuvres. Nous ne lui avons pas encore demandé de changer le problème de fond dans notre caractère. Et en réalité, c'est ce que le Seigneur veut faire. Prenez ce texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. Et s'il vous plaît, Ézéchiel, en plein milieu de notre Ancien Testament, ne me dites pas et ne vous laissez jamais dire que l'Ancien Testament, c'est plus pour nous, qu'il n'y a pas l'Évangile là-dedans et que c'est pour les Juifs. Il y a dans l'Ancien Testament le plan du salut par la foi en Jésus dans toute sa beauté. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 36. Au verset 25, il est dit ceci. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous avez remarqué au verset 25, il est question du baptême. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Au verset 26, il est parlé à la fois de la justification et de la sanctification, pour prendre le langage patois de Canaan auquel nous sommes habitués. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais mettre mon esprit en vous, enlever le cœur de pierre, mettre un cœur de chair. Changer votre caractère, la métamorphose dont on est en train de parler. Changer tout ça. Maintenant, si vous voulez avoir le même texte, le même, version Nouveau Testament. Regardez dans Romains chapitre 6. Épître aux Romains. C'est exactement le même texte, un petit peu plus court parce qu'il est dans le Nouveau Testament. Mais vous avez exactement la même chose. Les trois grandes étapes du plan du salut. Justification, sanctification, glorification. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dans le texte d'Ézéchiel, il nous promettait la terre promise au patriarche. Même chose. Le fruit va être la sainteté. Mais ça va être le fruit de ce changement profond qui est accompli au départ. Dans ce pamphlet Reflecting Christ, page 289, Ellen White écrit ceci. La formation du caractère est la tâche la plus importante jamais confiée aux êtres humains. S'y appliquer diligemment n'a jamais été aussi urgent que maintenant. Aucune génération jusqu'ici n'a été appelée à affronter des problèmes aussi importants. Jamais les jeunes n'ont été confrontés à des dangers aussi grands que ceux d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que Mme White est en train de souligner au stabilo le changement de notre caractère comme quelque chose d'important? Ou bien vous êtes passé à côté? La formation du caractère est la tâche la plus importante jamais confiée à un être humain. Alors finalement, que reste-t-il? Quand on fait le compte, et je sais bien, tout à l'heure j'ai été remis en place par William qui a fait la différence entre les jeunes et les vieux. Et je me sens extrêmement honoré de ce que des jeunes aient besoin des vieux, encore comme moi. Mais, écoutez, c'est vrai que quand on a encore toute la vie devant soi, on a l'impression qu'elle va durer longtemps. Mais il y a des moments où, à cause de ce que l'on vit dans l'existence, on donne une certaine valeur aux choses et on se rend compte, mais, en fin de compte, quand tout est fait, quand tout est dit, qu'est-ce qui reste? Ma maison. Je ne vais pas l'emporter. Le compte en banque, non plus. La beauté, je ne vais pas l'emporter. Ma réputation, non plus. Les galons que j'ai pu obtenir dans mon travail, dans mon entreprise ou même dans le ministère, je ne vais pas les emporter non plus. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Mon caractère. C'est tout ce qui reste. Alors écoutez ceci. Parabole, page 287. Un caractère formé à l'image divine, tel est le seul trésor que nous pourrons emporter de ce monde dans l'éternité. Ceux qui se laissent maintenant instruire par le Christ emporteront avec eux, dans les demeures célestes, toutes les perfections divines qu'ils ont acquises ici-bas. Et dans le ciel même, nous devrons continuer à faire des progrès. Combien il est donc important de développer notre caractère dès maintenant. Si finalement, c'est la seule chose qui reste, si c'est la seule chose que je vais emporter, à quel point je devrais aujourd'hui lui donner de l'importance? Et c'est vrai que nous avons tous eu cette expérience d'aller nous battre là où la guerre n'avait pas lieu. Et c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en disant que nous sommes tous battus pour enlever les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes, les mauvaises pensées. Et plus on essaye de ne pas penser, plus on y pense. Combien de fois nous nous sommes battus là où la bataille n'a pas lieu? Reflecting Christ, page 298. Jésus ne nous a jamais promis qu'atteindre la perfection du caractère serait une tâche facile. Un caractère noble et équilibré n'est pas héréditaire. Il ne vient pas par hasard. Un caractère noble se gagne par des efforts individuels soutenus par les mérites et la grâce du Christ. Il se forme au travers de batailles ardues contre le moi. Une bataille après l'autre doit être menée contre nos tendances héréditaires. Nous devons être critiques de nous-mêmes et ne permettre à aucun trait de caractère négatif d'échapper à la transformation. Ça, c'est tout un programme. Et il y a dans ce paragraphe une chose qui m'a extrêmement interpellé le jour où je l'ai lu. Il est dit: une bataille après l'autre doit être menée contre nos tendances héréditaires. Parce que je me suis dit, et nous avons souvent pensé, j'ai le caractère que j'ai à lutter contre les mauvaises habitudes que j'ai acquises, les mauvais plis que j'ai pris ou que j'ai reçus de la part de mes parents, de mon éducation, des autres. Je comprends. Mais le Seigneur est en train de me dire que c'est bien pire que ça. Il ne s'agit pas simplement de corriger les plis de repassage de ma chemise. Il s'agit de la coudre comme il faut. Il s'agit de corriger les problèmes héréditaires. Parce que vous savez, à force de lutter contre certaines choses et de ne pas arriver à la victoire, on est arrivé à se dire, ma foi, je suis comme ça. Et puis d'abord, ils ont qu'à me prendre comme je suis, non ? Je suis comme ça. Écoutez, méfiez-vous, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de patience. Débrouillez-vous avec ça. C'est tout d'un coup votre problème. C'est plus le mien. N'est-ce pas ? Je suis comme ça. Ils ont qu'à me prendre comme je suis. Parce que j'ai lutté contre, ça n'a pas marché, ça veut dire que c'est comme ça. Point. Et je m'installe finalement dans une certaine habitude qui est ma nature héréditaire. Et en fait, je suis amené à changer même ça. Alors je me dis, mais moi je ne peux pas faire ça. Il va falloir que le Seigneur le fasse par l'action de son Saint-Esprit. Moi je ne peux pas changer ça. Je peux peut-être m'atteler à la tâche de changer les mauvaises habitudes que j'ai développées depuis quelques années parce que j'avais des mauvais camarades autour de moi. Mais ma nature héréditaire, il va falloir que le Seigneur fasse quelque chose pour moi parce que je ne peux pas le faire par moi-même. Alors à partir de là, je reprends le texte que nous avons regardé tout à l'heure et avec lequel nous avons commencé dans Vers Jésus. Je vous relis une partie de ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. On s'est arrêté là. Maintenant, on continue ce qu'elle dit. J'étais malhonnête. J'ai pas lu le texte dans tout son contexte. Mais maintenant, je me rachète. Le texte continue, sans interruption. Mais, vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Oh, mais ça ne m'aide pas beaucoup parce que je n'ai pas de volonté. Vous n'avez pas l'impression aussi qu'il vous manque parfois cette espèce de force intérieure pour... Vous avez besoin de connaître la véritable puissance de la volonté. Mais alors, qu'est-ce que ça a à faire avec l'histoire de caractère, ça ? C'est fort simple. Maranatha, page 223. Elle fait maintenant le lien. 1 et 1 font 2. Où elle écrit : la force de caractère consiste en deux choses : la puissance de la volonté et le contrôle de soi. Ah, voilà la clé pour la transformation du caractère : la puissance de la volonté et le contrôle de soi. Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et n'est-ce pas lui qui nous le donne ? Alors ce soir, sans aller plus loin parce que l'heure est avancée, J'aimerais vous proposer très simplement trois choses. On pourrait continuer à étudier ce sujet. Je trouve que c'est passionnant de découvrir tout ce que le Seigneur attend de nous et tout ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et j'ai souvent l'impression de n'avoir pas été à la hauteur des attentes du Seigneur. Et je pense qu'un jour le Seigneur va me parler de toutes les frustrations qu'il a eues envers moi. Alors ce soir, j'aimerais vous proposer simplement trois choses. La première des choses que j'aimerais vous proposer, c'est que nous demandions à Dieu personnellement de nous montrer quels sont nos défauts de caractère. Au-delà des comportements, au-delà des habitudes, au-delà de ces choses que nous ne faisons pas comme il faudrait qu'on les fasse, que le Seigneur nous révèle nos défauts de caractère, qu'il nous révèle les faux plis dans notre hérédité qui ont besoin d'être transformés. Et vous vous souvenez hier, quand on a regardé l'histoire de Josias, vous vous souvenez que le premier point, c'était de prendre conscience du problème existant. La première chose que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est que nous sachions demander à Dieu de nous révéler nos défauts de caractère, là où lui a envie de travailler pour changer le reste. La deuxième chose, c'est que nous demandions au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, parce que c'est l'outil privilégié par lequel le Seigneur veut travailler et accomplir cette œuvre-là, justement. C'est d'ailleurs le seul moyen possible pour qu'il se passe quelque chose. Demandez à Dieu son Saint-Esprit. Et la troisième chose, j'aimerais vous suggérer que nous donnions à Dieu la permission de changer ce qui a besoin d'être changé. Et ce n'est pas une démarche facile, parce qu'à partir du moment où on lui donne la permission, le Seigneur a les mains libres pour faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et là, attachez vos tuques. Donnez à Dieu la permission de faire ce que lui seul peut faire. Ce sont les trois choses que j'aimerais vous proposer que nous fassions pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. Permettez que je termine avec une histoire, qui est une histoire vraie. Mais qui s'est passée un peu avant que je sois né, en 1632. Dans un... William. En 1632. Dans un pays qui est loin d'ici, qui s'appelle la Suède. À ce moment-là, le roi Gustave de Suède, le roi Gustave le Grand, est mort. Le roi est mort. Et c'était un roi d'ampleur, c'était un roi large d'épaule, c'était un roi qui avait dominé sur le pays, et d'ailleurs sur toute la région, avec une poigne de roi. Et voilà que le pays se trouve sans roi. Alors les chefs du peuple se sont rassemblés, le parlement s'est rassemblé, et ils ont commencé à discuter pour savoir ce qu'ils allaient faire avec cette situation-là, parce que Gustave n'avait pas d'héritier. Alors certains ont suggéré, ah ben dans ce cas-là, c'est simple, il nous suffit, on va donner le trône au roi de la Pologne, juste de l'autre côté de la mer. Les autres ont dit non, malheureux, surtout pas. Pas question de donner le trône de la Suède au roi d'un pays voisin, non. Alors d'autres ont dit non, on a une meilleure solution, il y a un nouveau, un vent qui souffle, c'est le vent de la République. On va instituer une république et on aura maintenant un président dans notre pays. Les autres ont dit non, ces histoires révolutionnaires, ça ne marche pas, pas question. Et ils ont eu dans ce parlement un débat, les uns pour, les autres contre. Et oui, et non, et cherchant toutes sortes de solutions, jusqu'à ce que un vieux monsieur, un vieux chef là-dedans, se lève et dise « Mes amis, silence, vous n'y connaissez rien. Nous allons mettre sur le trône l'héritier du roi Gustave. Mais il n'en a pas !» Il a un héritier. Mais non, c'est un faux, c'est quelqu'un qui veut usurper le pouvoir, c'est un faux, c'est quelqu'un qui veut monter sur le trône alors qu'il n'a aucun droit. Non, le roi Gustave n'a pas d'héritier. Vous n'y connaissez rien, est-ce que vous êtes prêt à m'attendre quelques minutes? Comme c'était un vieil homme respecté, ils se sont dit oui, et ils ont attendu. Cet homme est sorti. Et ils ont attendu qu'il revienne. Il est revenu en tenant par la main une petite fille de 6 ans qui était pétrifiée. Dans la salle du Parlement, il y avait là le trône vide du roi décédé. Il a pris cet enfant de 6 ans et l'a assise sur le trône du roi de Suède. Les pieds faisaient comme ça. La petite fille était terrifiée en voyant tous ces dignitaires, tous ces vieux qui étaient habillés de leurs habits d'apparat, terrifiés. Et maintenant, le vieil homme leur a dit, écoutez mes amis, voici la fille de Gustave de Suède. Ah ouais, on ne savait pas qu'il avait une fille, c'est sa fille. Et les voix ont commencé à se lever. C'est un faux, c'est une usurpation, c'est pas sa fille. On ne savait pas qu'il avait une fille, c'est pas sa fille. Alors le vieil homme a dit silence. Vous allez tous passer devant cet enfant, vous allez la regarder dans les yeux. Après on parle. Alors ces dignitaires se sont levés les uns après les autres. Et la petite fille ne savait plus quoi faire. Elle voyait tous ces grands messieurs qui passaient devant elle, qui la regardaient dans les yeux. Et ils sont tous retournés à leur place en disant « Waouh !» C'est les yeux du roi Gustave. C'est son nez, c'est sa bouche. C'est le visage du roi Gustave, ça. Alors, le vieux monsieur, quand tout le monde est passé, il a dit « Et alors, qu'est-ce que vous en dites ?» Et ils ont tous dit Christina, reine de Suède. Une enfant de 6 ans. Simplement parce que elle portait sur son visage les traits de son père. Alors, je crois que nous serons amenés, nous aussi, un jour, à monter sur le trône avec notre père. Avec le fils qui est déjà héritier, Jésus-Christ. Mais ne pourront finalement monter sur son trône que ceux qui auront son visage, que ceux qui vont refléter ce qu'il est, que ceux pour qui on pourra dire « Waouh, c'est le fils de son père. C'est vraiment un fils de roi celui-là. Ce sont ceux-là qui vont monter avec lui sur son trône. Et c'est finalement ce à quoi nous sommes tous appelés. Que ce soit ce caractère transformé par la grâce de Dieu qui nous qualifie à monter avec lui sur son trône. Alors j'aimerais simplement vous laisser ce passage en terminant dans l'épître de Pierre. Le Pierre dont on parlait tout à l'heure. Première épître de Pierre au chapitre 5. Où il est dit au verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 10. Il est écrit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.